Gracier de Leda, comte Sade, Les deux justices. Dans un misérable village sarde, le plus pauvre des habitants s'appelait Quirico Coverou, surnommé Barabbas, parce qu'une fois à la représentation d'un mystère, il avait joué le rôle de ce personnage. Zio Chiren Barabbas était plus pauvre que les mendiants. Ne possédait qu'une seule chemise, un seul caleçon de toile, une seule culotte d'or basse et un bonnet qu'il s'était fait lui-même avec une peau de lièvre. Il n'avait pas de bouton à sa chemise, il n'avait pas de gilet, pas de manteau, pas de chaussettes, il n'avait pas de souliers, ce qui était la pire misère pour un autre homme de ce pays-là. Mais comme il était sain et robuste, et son beau type rappelait celui des Celtes, taille haute, cheveux roussâtres, yeux toujours souriants. Mais était-ce sa faute si on l'avait élevé comme ça, si on l'avait appris seulement à couper du bois dans la forêt, à la porter en ville et à le vendre? Il ne savait pas d'autre métier. D'ailleurs, il était inoffensif comme un lézard et naïf comme un enfant de 7 ans. Tout son patrimoine, outre la susdite garde-robe, consistait en une médaille d'argent qu'il avait au cou depuis son plus jeune âge, une hache, une corde en crin de cheval qu'il avait tressée lui-même et un couteau de poche. Malgré tout, il était souvent de bonne humeur et vivait plus tranquille que M. Saturnino Solita, le Richard dont la vaste maison neuve semblait bâtie avec de la neige où l'on aurait cru mis ça et là pour ornement des bandes de ciel. Dio, qui passait presque toutes ses journées dans la forêt, si belle à toutes les heures et en toute saison, soit quand les yeuses se couvraient de fleurs d'un or pâle, soit quand les midis bleus de l'été pesaient sur elle, soit quand elle se taisait, toute verte et humide sur le fond perlé du ciel automnal, soit quand les branches cognaient, pliaient sous le gîte cristallisé par le froid. Le bûcheron grognait toujours toc toc toc, disait continuellement le bois frappé par la hache. Chu, 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 répondait là-bas près de la fontaine verdoyante un oiseau sylvain. Rien de plus. En travaillant, Yoshiro priait, ou bien il pensait apporter son bois dans les maisons qui payaient le mieux, ou bien il rêvait à s'acheter une paire de souliers. Il avait environ 45 ans, lorsqu'un jour, deux hommes habillés de bleu turquin, avec des boutons jaunes sur leur tunique, l'interpellèrent dans le bois. « Que faites-vous ? » lui demandèrent les hommes. « Vous ne le voyez pas ? » répondit-il en s'arrêtant, courbé sous sa charge, mais la face haute. « Est-ce que vous possédez des terrains dans la forêt, vous ?» Il se mit à rire, puis allongea et regarda un de ses pieds nus, mais pas même de souliers. Alors vous êtes en contravention, à moins qu'on ne vous ait autorisé à couper du bois. Non, personne, je prends la permission moi-même, sans quoi je mourrai de faim. Eh bien alors, vous êtes en contravention. Mais être en contravention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez à payer une amende ou à faire de la prison. » Zio Chireux n'eut plus envie de rire, et même son visage s'assombrit. « Mais voilà 30 ans que je coupe du bois, et jamais on m'a dit que je devais cesser de mourir de faim. » Les deux gardes forestiers parurent s'émouvoir. « Que voulez-vous, mon cher? À présent, la loi est ainsi, et il faut s'y soumettre. Allez, pour cette fois, nous vous laisserons aller, mais... « Sachez que vous ne nous rencontrions plus. » Ils le rencontrèrent maintes fois encore, si bien qu'un jour ils lui saisirent sa charge et lui dressèrent procès-verbal. Ces gardes n'étaient pas méchants, ils avaient même pitié du pauvre homme. Mais qui pouvait-il? Leur devoir était d'exiger le respect de la loi. Jyoshiku n'en continua pas moins son métier, mais avec une extrême prudence. Il s'enfonçait dans les lieux les plus sauvages, là où l'entendait même pas le tch-tch du oiseau sylvain. Et le toc-toc de l'arbre, secoué par la hache, résonnait plus timidement, avec des pauses. C'était comme si de temps à autre, l'arbre frémissant eût été saisi de peur et se fût mis aux écoutes. Zio Chiaku fut cité devant le juge de paix du district et condamné à une forte amende, car tous les témoins, propriétaires de la forêt, déclarèrent que cet homme était l'un des plus grands et des plus acharnés dévastateurs du taillis. Comme il n'avait pas le moyen de payer l'amende, il serait obligé d'aller en prison. Cela lui semblait un horrible rêve, et il souffrait comme il n'avait jamais souffert de sa vie. En quelques jours, il vieillit de 10 ans. Il devint encore plus sale et plus déguenillé qu'autrefois, et ses yeux s'obscurcirent. Ah non, il ne voulait pas aller en prison, au moins tant que la belle saison durerait. Il ne voulait pas non plus y aller dans la mauvaise, car c'était en hiver que le bois se vendait le mieux. Alors il se concerta avec un autre homme du pays, et il prit la campagne. Il en avait l'habitude et peu lui importait de ne pas rentrer au village. Il coupait le bois et l'autre homme l'emportait, le vendait. Mais cet homme le volait de la moitié. Et Zio Chiaku était contraint de se taire. Il se sentait profondément malheureux. Il devait aller dans des cantons éloignés et le plus souvent, il coupait son bois la nuit, quand la lune descendait sur la forêt solitaire. Au toc-toc de la hache résonnait dans le pays, silence du clair de lune répondait le houhou de la chouette, qui tantôt semblait venir des sombres profondeurs de la futaie, et tantôt semblait descendre des transparences pâles du ciel. Ainsi passa l'automne et puis l'hiver, et le printemps arriva. Zio Chiaku était extrêmement misérable, presque nu, avec les cheveux et la barbe embroussaillés. Et parfois il souffrait la faim, mais il ne voulait pas se rendre. Non, non, il ne s'était pas rendu pendant la grande froid de l'hiver, et il était beaucoup moins disposé encore à se rendre maintenant, que le soleil répandait une délicieuse tiédeur dans les clairières, parfumées des cyclamens et de violettes. Il se rendrait l'hiver prochain. Il avait bien le temps. Or, un jour qu'il traversait une lande pour aller d'un bois à un autre, la fortune parut lui sourire. Il trouva sous un buisson un gros portefeuille rouge, deux porte-monnaies, une pochette et des papiers que la rosée avait un peu détrempés. Il examina sa trouvaille. D'argent, point, mais peut-être que les papiers avaient de l'importance, et peut-être qu'on le récompenserait quand il les rapporterait. Il ramassa donc le tout et continua son chemin. Et ensuite, lorsqu'il vit l'ami qui se chargeait de vouloir rendre le bois, cet ami-là savait lire. Il lui conta l'aventure. Mais le diable nous protège! S'écria l'ami en observant Zio Chiaku d'un regard soupçonneux. Tout cela appartenait à Monsieur Saturnino Solita. Zio Chiru eut un frisson de peur et d'horreur. Monsieur Saturnino Solita avait été assassiné peu de temps auparavant, tandis qu'il revenait de Cagliari où il avait vendu et embarqué un troupeau de porcs gras. Sans nul doute, l'assassin, après avoir pris l'argent, s'était débarrassé du portefeuille, du porte-monnaie, de la pochette et des papiers, en les jetant sous le buisson. Ça, c'est des traites, et ça, c'est du papier qui vaut de l'argent monnayé, vois-tu? Dit l'ami, qui avait été domestique dans une maison riche. Si tu vas à un magasin, on te le changera tout de suite. Ça se nomme un chèque. Mais je veux pas y aller, on croirait que je suis l'assassin. Eh ben, si tu n'y vas pas, t'es un imbécile. Au bout de 2 ou 3 mois, par exemple, comment veux-tu qu'un Noiro, quelqu'un se rappelle encore cette histoire-là? Tu entres comme si tu étais un domestique, tu fais des emplettes, tu prends la monnaie qu'on te rend, et tu reviens parfaitement tranquille. Mais ne serait-ce pas une espèce de vol? Le diable t'écorche, imbécile que tu es. Comment serait-ce un vol puisque le propriétaire n'existe plus? Le vol, il a été commis par l'homme qui lui a envoyé une balle au travers du cou. Pourvu que ce ne soit pas toi. Sacré farceur! S'écria Chiaku en riant, avec une telle franchise que cela démentait absolument l'étrange soupçon de l'autre. Eh ben alors, pourquoi te serait-il interdit de changer chèque? Et dans tous les cas, tu peux dire que tu l'as trouvé. Je suis sûr, ce me semble, pour en rendre témoignage, je suis là. Tu es trop bête, ma parole. Ne vois-tu pas que tout ce que tu portes sur le dos est en loques? Bon, c'est vrai. Mais justement, lorsqu'ils me verront en loques, ne se défieront-ils pas plus de moi? Du reste, après tout ce que tu m'as dit, bon, je n'ai plus de scrupules. Eh bien, je te prêterai mes souliers, ma capote, mes chaussettes, et aussi ta veste et ton bonnet. Tu veux donc tout l'habillement? Oui, si tu consens à me le prêter. Mais alors, comme récompense, bien entendu, je te récompenserai en achetant pour toi quelque chose. Que désires-tu que je t'achète? Ce qui te plaira. Pendant quelque temps, Ziochirku Balabas se sentit moins malheureux que d'habitude. Il pensait aux belles emplettes qu'il ferait, aux souliers, à la veste, à la hache neuve. Il achèterait aussi des choses à manger, du pain, du vin, du lard. Dans le tréfonds de son âme, il avait bien certains doutes et certaines appréhensions. Mais en somme, c'était un objet trouvé. Et le cas échéant, il avait l'ingénuité de croire qu'il lui suffirait de dire la vérité pour se délivrer de tout ennui. Chaque fois que son associé venait chercher le bois, celui-ci l'encourageait. Et un jour, il finit par lui dire qu'après tout, si Ziyoshiaku avait peur, il irait lui-même changer le chèque. Mais Ziyoshiaku, se rappelant les filouteries sur la vente du bois, n'avait plus confiance en cet homme. Il jugeait prudent de se rendre lui-même à Nuoro. Il alla tout droit chez un cordonnier pour s'acheter une paire de gros souliers en cuir jaune avec de gros clous qui luisaient comme de l'argent et de leurs lacets en cuir d'art noir. Il les essaya, les laça, les délaça, puis chaussa de nouveau les souliers de son ami qui serrait beaucoup ses énormes pieds bruns. Et son cœur battait lorsqu'il tira de sa ceinture le chèque du mort. Le marchand prit le chèque, l'examina. Pas un muscle de son visage ne bougea. Et pourtant, à 7 minutes, il décida du sort de ce pauvre Barabbas. Oh, j'ai pas de quoi changer, dit-il. Mais si vous voulez attendre un moment, j'enverrai chez mon voisin qu'il le changera. Ziochirku ressentit une légère inquiétude, mais il laissa faire. En attendant, il jugea bon d'ôter encore une fois les souliers de son ami et de rechausser les souliers neufs, plus commodes, quoique un peu trop lourds. Oh, ils sont durs comme la peau du diable, pensait-il en les palpant, courbés jusqu'à terre. Mais j'y mettrai un peu de graisse et ils deviendront souples. Comme ils sont beaux, oh, mais là, vraiment beaux! Le commis que le marchand avait dépêché pour changer le chèque ne revenait pas. Et le marchand, inquiet, nerveux, s'avançait à chaque minute sur le pas de la porte et regardait au loin. Enfin, le commis reparut. Et derrière lui entra tout de suite un monsieur fort bien habillé, avec de grosses lèvres rouges. Et derrière le monsieur entrèrent deux agents de police. Ziochirku eut la sensation que son cœur se refroidissait. Il devina ce qui allait se passer, et pendant une seconde il eut peur. Mais il pensa aussitôt, ben, je dirai la vérité, l'affaire s'arrangera. Tout cela s'était fait très vite. De qui tenez-vous ce papier? Demanda le monsieur aux grosses lèvres. Ben, je l'ai trouvé, répondit avec respect le bûcheron, qui s'était mis debout et qui avait toujours à la main les souliers de son ami. Et où l'avez-vous trouvé? Il raconta de quelle manière. Bon, brave homme, dit le monsieur d'un air assez aimable, peut-être par crainte que ce grand gaillard sauvage ne se rebelle là. Donnez-vous donc la peine de venir avec nous pour mieux expliquer votre cas, monsieur l'inspecteur. Ezio Chirkoul les suivit docilement, avec l'illusion qu'il lui suffirait de dire la vérité pour être cru. Mais dans son for intérieur, il éprouvait une anxiété mystérieuse, un secret pressentiment de choses épouvantables. Au bureau, le monsieur et les policiers changèrent de ton. Ziyo Shirkou fut de nouveau interrogé, rudement cette fois, par un autre monsieur par les chauves. Puis il fut déshabillé, fouillé. On trouva sur lui les objets qui avaient appartenu aux morts, et aussitôt il fut considéré comme l'assassin de Saturnino Soldina. On le jeta en prison, on le soumit à de longs et cruels interrogatoires. Chaque jour, des messieurs venaient, les uns vieux avec des lunettes, les autres jeunes avec la barbe blonde, et ils lui posaient mille questions étranges. Ils voulaient absolument qu'il leur dît quand et comment il avait tué M. Saturnino Solita. « Mais je n'ai tué personne !» répondait-il. « Ces objets-là, je les ai trouvés, je ne savais pas même ce que c'était. Un ami m'a conseillé de servir du chèque. Comme j'avais grande envie d'avoir une paire de souliers, je suivis son conseil. Si vous ne me croyez pas, demandez-le-lui. » On fit venir l'ami, on l'interrogea. L'homme reconnut qu'il avait prêté ses vêtements, dont il réclamait la restitution, qu'il avait aussi prêté ses chaussures, mais il protesta qu'il ne savait rien, qu'il n'avait rien conseillé. « La canaille, l'impudent !» pensait à part soi Zio Chirku. « Oh, j'aurais dû m'en douter, après ce qui est arrivé pour le bois. » Afin de se venger, il dit au juge, « Bon, s'il ne m'a rien conseillé, il ne m'a pas non plus prêté ses nippes. » Il calculait, au moins de cette façon, ils ne lui seront pas rendus. Mais ensuite, il se repentit et se dédit. Non, il ne voulait pas offenser davantage la bonté du Seigneur, car il était certain que sa disgrâce lui était advenue parce qu'il avait déjà péché en s'appropriant le bien d'autrui. Pendant ses longues heures de cellule, il éprouvait la nostalgie instinctive des grands bois solitaires, du libre ciel. Il se sentait malheureux, très malheureux. Il se rappelait l'époque où il se cachait dans le maquis, les souffrances qu'il y avait endurées. Il lui semblait qu'alors il avait péché en se plaignant, car sa dure vie de cette époque-là était un bonheur en comparaison de la tristesse présente. Et pourtant, il ne se faisait pas encore une juste idée des maux qu'il attendait. Il espérait toujours qu'on le mettrait en liberté d'un moment à l'autre. Et chaque nuit, en s'endormant, il croyait entendre le toc-toc de la hache retentir dans le silence de la forêt, accompagné par le cri strident et mélancolique de la chouette. Beaucoup de temps passa. Personne ne se souvenait de Zio Barabbas, personne ne voulait le voir, personne ne lui envoyait ni un cigare, ni un litre de vin, ni un pain, ni une chemise propre. Tandis que le plus misérable des prisonniers recevait parfois quelque chose. Et même ces messieurs aux lunettes brillantes, qui faisaient peur à regarder, ou ceux à la barbe blonde, ou ceux au front chaud et au teint livide, avaient oublié le pauvre Chirou. Mais un jour, on lui remit une feuille en partie imprimée, en partie manuscrite. Il se la fit expliquer, le cœur tremblant. C'était l'arrêt par lequel la chambre du conseil le renvoyait en cour d'assises. Après quoi, il reçut la visite d'un avocat, un jeune homme qui, selon les heures passées, paraissait verdâtre ou bilieux ou indifférent. Et ce jeune homme, lui aussi, voulait à toute force que Gio Circu lui racontât comment il avait assassiné M. Saturnino Solita. « Mais dites-moi la vérité, répétait-il. Aux avocats, il faut confesser toute la vérité. Ensuite, on arrange les choses. » À certains moments, Zio Barabbas eut la tentation de déclarer qu'il avait tué Solita, tant il lui semblait plus facile de se tirer d'affaire en avouant ce prétendu crime qu'en affirmant la vérité. Mais lorsque la face verdâtre de l'avocat n'était plus devant lui, il recommençait à espérer le triomphe de la vérité. D'ailleurs, ses compagnons de prison lui disaient que les jurés étaient d'honnêtes gens, qui avaient un cœur humain et non un cœur de pierre comme les magistrats. Vint le jour de l'audience. Zio Chirku s'éveilla presque gai. Il avait rêvé qu'il était dans la forêt à couper du bois auprès d'une rivière, et un oiseau de marais, tout noir avec de longues pattes vertes comme du jonc, modulait un chant étrange sur la branche d'un saule. L'ami qui vendait le bois fut au nombre des témoins. Lui et les autres déposèrent que l'accusé était un honnête sauvage, sournois, insociable. Le ministère public le dépeignit comme une bête des forêts qui avait longtemps prémédité son crime, qui avait guetté sa victime au passage, un fauve qui se tapit dans la jungle prêt à bondir sur sa proie, textuellement. Zio Barabbas contemplait, frappé d'épouvante, ce monsieur en lunettes à qui jamais il n'avait fait aucun mal. Il en éprouvait toujours plus de terreur. Pour se donner du courage, il tournait les yeux vers les jurés. Il ajouta pacifique, bedonnant, d'aspect débonnaire, et cette vue lui rendait un peu d'espérance. L'avocat prit la parole. Il était plus vert que jamais. Lorsqu'il avait un élan oratoire, cela se traduisait par un grincement de dents qui produisait l'effet le plus fâcheux. Bref, le pauvre homme fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il pleura des larmes amères. Il regarda encore une fois les jurés, ces hommes gras, pacifiques, d'aspect débonnaire. Il se rappela son rêve, sa confiance aveugle dans le triomphe de la vérité. Et il se dit que tout ce qui paraît bon est mensonge. Pour le réconforter, son avocat lui fit signer un pourvoi en cassation. Mais Dio Chirku n'avait plus confiance, ne croyait plus en la justice, n'espérait plus rien. Son cœur se recroquevilla, devint sec et amer comme une prunelle sauvage. Il cessa de prier, de pleurer. Et on l'emmena loin, très loin, dans une saline. On lui rasa les cheveux, la barbe, les moustaches. On l'habilla de rouge et on lui riva une chaîne aux pieds. Dans les premiers temps, il était au désespoir. Le spectacle de la mer immense augmentait la profonde nostalgie de ce pauvre homme, accoutumé à vivre dans les lieux couverts et sans horizon. Mais, avec le cours des années, il s'habitua, se résigna. Ses souvenirs se brouillèrent. Et en même, quelquefois, en songeant que sa vieillesse au pays se serait écoulée dans la plus noire des misères, il éprouvait une sorte de satisfaction à se dire que maintenant il n'avait plus à se préoccuper du lendemain. Seulement, il était devenu vicieux. Il avait perdu l'innocence conservée jusqu'au jour de sa condamnation. Il blasphémait et, à l'occasion, volait et s'enivrait, comme le plus vil des galériens. Il ne pensait plus à Dieu, ou s'il y pensait quelquefois, c'était avec colère, comme à un être monstrueux qui avait laissé s'accomplir sur une de ses créatures la plus infâme des injustices. Zio Barabbas se lia d'amitié avec un de ses compagnons d'infortune, avec un autre sarde, petit vieillard, qui ne lui arrivait guère qu'à la ceinture, et qui avait une face joufflue et rouge dans laquelle s'enfonçaient deux petits yeux d'un bleu très vif. Ce vieillard était d'un village voisin de celui où était né Zio Chirku. Il s'appelait Zio Pretu. C'était un bout d'homme jovial, sans scrupules et grand hableur. Mais après qu'il avait fait croire à ses condétenus les choses les plus merveilleuses, il éclatait de rire et avouait que ses histoires n'étaient que des bourdes. Lorsque Zio Chirku fut amené au bagne, il n'y avait déjà plus personne qui ajoute à foi au récit de Liu Pintou. D'ailleurs, si par hasard celui-ci disait la vérité, il parlait avec un accent tel qu'on ne pouvait s'empêcher de le croire. Mais la vérité, Liu Pintou ne la disait pas souvent, ni à beaucoup de personnes. Quand Liu Pintou eut acquis toute la confiance de Zio Chirku, il lui raconta son histoire en peu de mots et avec ce rare accent persuasif. « Écoute, je suis de tel village, je vivais à mon aise, tu sais, j'avais des vaches, des ruches, des champs, ensemencés de blé et de fèves. Mais je voulais être encore mieux. Je connaissais un prêtre riche, si riche qu'il possédait même les couverts d'or. Et avec quelques camarades, nous allâmes le voler. Comme il criait, nous lui serrâmes le cou, et il resta mort. Mais voilà qu'au plus beau moment survient la justice. » Poum, poum, coup de fusil par-ci, coup de fusil par-là, nous dûmes fuir. Malheureusement, un des nôtres demeura entre les mains des soldats. Et il révéla nos noms, le lâche. Je fus donc obligé de prendre le maquis, et pour que la justice ne mangeât pas mon avoir, je commençai par vendre tout ce qui m'appartenait. Je mis l'argent dans une cruche et j'enterrai la cruche. Un peu plus tard, on m'arrêta. Et le butin ? Demanda Zirchirkou. Oh ! M'en était servi pour me nourrir, tandis que je me cachais. Mais je te le dis franchement, ces bouchées-là me semblaient amères. Et le vieillard cracha au loin, puis il demanda à Zirchirkou. Et ton histoire à toi ? Oh, moi aussi, répondit l'autre avec amertume. Je suis au bagne pour avoir volé, pour avoir assassiné un homme. Toutefois, il y a une différence. Ces crimes-là, on me les a imputés, mais je ne les ai pas commis. Oh, ça, c'est injuste. Moi, j'ai vraiment assassiné le mien, il n'y a pas à dire le contraire. Je m'en suis bien repenti, car j'ai perdu tout ce que je possédais. Tu n'as pas de famille ? Demanda Zirchirkou, pensant à la cruche. Oh, diable, la famille ! Mes parents m'ont abandonné comme un chien. Ils peuvent crever comme des chiens, je m'en soucie guère. Donc, Zirchirkou et Zioprétou se lièrent d'une amitié qui dura de longues années et qui fut pour ces malheureux une sorte de réconfort. Ils portaient l'un et l'autre la chaîne, ils étaient compatriotes, ils parlaient souvent de leurs terres lointaines, et ce qui contribuait encore à les unir, c'était la conviction qu'ils devaient l'un et l'autre mourir là-bas, numéro perdu dans la blanche désolation des salines fouettées par la mer et par le soleil. Le caractère de Zirchirkou avait complètement changé. Il était devenu hargneux et querelleur. À certains moments d'humeur noire, il insultait son vieux compagnon, et peu s'en fallait qu'il ne le frappât pas. Alors le petit vieillard se mettait à rire et lui disait « Numéro tel, si tu fais le méchant, je ne dirai pas où j'ai caché ma cruche. » L'autre se fâchait plus fort. « Quel diable t'es écorche ? Quand même tu me le dirais, quel bien ça me ferait-il ? Ben, t'aurais du moins le plaisir de le savoir aussi. Que le diable t'enfourche, que le diable te mette au saloir. Ne m'irrite plus davantage, numéro tel. » Quand ils s'appelaient numéro au lieu de s'appeler par leur nom, c'était la plus grave injure qu'ils pouvaient échanger entre eux. Un jour que Zirchirkou était de bonne humeur, il dit à Zioprétou, « Pourquoi n'écris-tu pas à quelqu'un ? Il déterrerait la cruche et t'enverrait de l'argent. Tu pourrais vivre mieux, t'acheter ceci, t'acheter cela. » Une corne, il garderait tout. Je connais le monde mieux que tu le connais. Mais alors, je devine ce que tu veux dire. Eh bien, quand je serai à l'article de la mort, je révélerai ma cachette à un pauvre. Oui, à un pauvre, de cette façon, il priera pour mon âme. Et les semaines, les mois, les années passèrent. Les cheveux de Zirchirkou devinrent gris. Sa poitrine se creusa, sa taille diminua. Quant à Zioprétou, il était presque décrépit. Mais il ne paraissait pas plus vieux que son compagnon. Et il continuait à raconter des bourdes et à en rire. S'il débitait ses histoires avec une intarissable faconde, c'était plus pour s'amuser lui-même que pour amuser les autres. Or, un certain jour, il se produisit un fait extraordinaire. Zirchirkou fut appelé chez le directeur de l'établissement pénitentiaire. Il y alla, un peu ému, parce que jamais rien de pareil n'était arrivé. Le directeur lui dit « Maintenant que tant d'années se sont écoulées, maintenant que vous êtes vieux, vous pouvez enfin avouer la vérité. Avez-vous, oui ou non, commis le crime ? Dites la vérité, toute la vérité, cela vous sera profitable. Nous solliciterons votre grâce. Vous aurez peut-être la chance d'aller mourir dans votre pays. » Zirchirkou nia encore avec une énergie farouche. Non, non, quand même je devrais vivre autant d'années qu'il y a de grains de sable dans la mer et les passer ici jusqu'au bout. Non, je n'ai assassiné personne. Non, non et non. On le fit sortir. Il rejoignit Zioprétou qui l'attendait avec un peu d'anxiété et il lui conta la chose rageusement. « Diable ! Fit le vieux, Tout ça est injuste. Moi, j'ai réellement assassiné le prêtre, il n'y a pas à dire le contraire. Et si on m'appelle, j'avouerai encore. Et si on veut une gracier, on me graciera. Mais quand on met un pauvre diable comme toi, non, non, ça, ce n'est pas juste. Le jour suivant, Gio Circou fut appelé de nouveau à la direction et interrogé une seconde fois. Le sang lui montait à la tête. Encore un peu, il se serait jeté sur le directeur. « Eh bien, puisque c'est ainsi, lui dit le directeur en changeant de ton, sachez que le vrai coupable a été découvert. Ou plutôt non, il n'a pas été découvert. C'est lui qui, vaincu par le remords, a confessé son crime. Mais c'est la même chose. Réjouissez-vous donc et préparez-vous à partir d'ici, car on vous libérera bientôt. » Après quoi, on le fit sortir. Il se retira tout tremblant. Et revenu près de Gio Pretou, il pleura comme jamais l'autre ne l'avait vu pleurer. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Mais on a découvert le vrai coupable, » répondit Gio Circou, sanglotant et répétant les paroles du directeur. « Mais non, non, c'est lui qui, vaincu par le remords, a confessé son crime. Mais c'est la même chose. Faut que je me prépare à partir d'ici. » Gio Pretou se mit à pleurer pareillement. Tous les deux, ils pleuraient de douleur et de joie mêlées. « Mais que vais-je devenir ?» demanda Gio Pretou. « Et moi, comment ferai-je ? » demanda Gio Circou. « La liberté est belle et je retrouverai ma bonne réputation. Mais je suis vieux, je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus gagner ma vie. Et je n'ai personne. Les gens du pays deviendront en aide. Mais je ne veux pas vivre d'aumône, moi. » Puis avec un triste sourire où il y avait un peu d'ironie, « Pourquoi ?» reprit-il. « Me dirais-tu pas où t'as caché la cruche ?» Le visage de Gio Pretou s'illumina. « En effet, pourquoi non ? Tu es un pauvre. Eh bien, je vais te le dire. Dirais-je, j'y avais déjà songé. Mais tu te souviendras de moi dans tes prières ?»« Oh, mes prières, je ne me les rappelle plus !» s'écria Gio Circou, saisi. « J'ai oublié Dieu, mais Dieu, lui, ne m'a pas oublié. Il a voulu seulement me soumettre à une épreuve, et moi, j'ai vécu en païen. » Le jour du départ, Gio Pretou dit à son camarade l'endroit où il avait caché sa cruche. Ils se séparèrent tristement. C'était la dernière douleur que devait éprouver Gio Pretou. Mais le vieillard trouvait un peu de consolation à penser que, avant de mourir, il pouvait rendre service à un pauvre homme sur qui Dieu avait appesanti sa main. Quant à Gio Circou, il s'en alla le cœur joyeux, songeant à ses réputations reconquises et à son avenir assuré. Lorsqu'il rentra dans son village, on lui fit d'abord beaucoup d'aumônes avec lesquelles il put vivre quelque temps. Il pensait toujours à la cruche du forçat, mais il ne pouvait se mettre en route pour la chercher. Car il se sentait débile, incapable de faire un long trajet. Puis avant de se rendre à l'endroit indiqué, il devait refaire ses forces. Peu à peu, on s'habitua à le voir. Et les aumônes devinrent moins copieuses, les témoignages de sympathie moins empressés. Finalement, on le négligea et on ne pensa plus à lui. Alors, il se mit en route et partit à la recherche de la cruche. Son cœur battait fort à mesure qu'il reconnaissait les lieux où il avait vécu avant son infortune. Beaucoup de futaies avaient été escartées, quelques-unes entièrement défrichées, mais entre les sureaux du ruisseau vibrait encore le tchou-tchou des oiseaux de marais. La note égale et lente d'un coucou sortait encore des buissons de lentisque, et ses voix remémoraient au vieux Barabbas une infinité de choses anciennes. Une étrange mélancolie l'oppressait. Il se représentait combien il était devenu méchant depuis le jour lointain de son malheur, et combien il avait désespéré de la miséricorde divine. Il songeait à son vieux compagnon de bagne, et se demandait instinctivement si Gio Pretou n'était pas meilleur que lui-même, cet homme qui avait commis un crime et qu'il expiait avec résignation en accomplissant des actes de bonté. Non, 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 ce n'est pas possible qu'il retrouvât la cruche. Il ne méritait pas cette chance, car il avait trop péché, trop désespéré. Puis il se repentait de désespoir encore, et il priait, et il continuait son chemin avec plus de courage. Vers le soir, il parvint au lieu que lui avait indiqué le forçat. C'était un bosquet de peupliers dans un site désert, loin de toute habitation. La nuit descendait, limpide, scintillante d'étoiles pures. Les peupliers se dressaient dans le ciel sur leurs minces troncs clairs, comme d'énormes fleurs d'argent. Le sol, mollement tapissé de feuilles, exhalait une vague senteur humide. Dio Barabbas avait apporté avec lui le fer d'une petite pioche. Il attira de dessous son caban. Il tâta longuement la terre dans l'obscurité en quête d'un manche quelconque. Il rencontra une branche, l'adapta au fer de la pioche, et il attendit le lever de la lune. Son cœur battait fort. Il s'agissait pour lui de tout le temps qui lui restait à vivre et qu'il serait réduit à passer dans la plus cruelle misère si l'aide de Dieu lui manquait. Il s'assit sur l'herbe et cacha son visage entre ses mains. Ah, combien il avait péché! Mais il se repentait amèrement, et il comprenait que, même s'il ne retrouvait pas la cruche, il ne devait pas se plaindre, car ce serait le juste châtiment de ses fautes. La lune se leva, les feuilles mouillées des peupliers resplendirent comme de l'argent, la senteur humide se fit plus distincte. Dio Barabbas s'agenouilla et commença de piocher. Dans le silence profond de la solitude, il avait peur du bruit, le seul qu'il faisait lui-même. Extraite par la pioche, la terre sortait du trou, molle, noire, odorante, et se répandait sur les genoux du piocheur, couché de plus en plus. Enfin, la pioche heurta un corps dur et rendit un son métallique. Dio Barabbas plongea son bras dans le trou, sentit l'anse de la cruche, puis il continua de creuser avec une ardeur furieuse, et bientôt la cruche fut dehors. Il la prit, la secoua. Dans l'intérieur, les monnaies tintèrent. Alors il fit le signe de la croix, et la face tournée vers le ciel, il remercia la miséricorde divine. Il ressemblait à un vieux sauvage en adoration devant la lune. Grazia deledda.